Vous écoutez, on lit pour vous.
Un lieu de culture et de vie depuis 20 ans. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 1er mai 2025 dans la presse. Il y a 20 ans, une immense file de curieux, remontant du boulevard de Maisonneuve jusqu'à la rue Ontario, se formait devant la grande bibliothèque de Montréal. Alors que l'institution célèbre cette semaine l'anniversaire de son inauguration, retour sur deux décennies de culture publique avec Mélanie Dumas, directrice des collections. Certains édifices montréalais peinent à traverser les époques sans être frappés de désuétude. Mais ce n'est pas le cas de la Grande Bibliothèque qui, 20 ans après son vernissage, a conservé une fière allure, soutenue par une offre renouvelée et une architecture toujours ancrée dans son temps. Quand on est dans notre propre maison, parfois, on ne voit plus la beauté des lieux. Mais quand on constate l'émerveillement des nouveaux visiteurs et la façon dont ils parlent de la bibliothèque, on se rappelle à quel point elle est encore belle et bien entretenue, confie Madame Dumas, soulignant qu'un concours d'architecture avait été organisé en vue de sa construction. Un lieu qui a toujours honoré son tempérament rassembleur, et ce, dès le jour de son inauguration, en 2005. Les adversaires politiques avaient laissé leurs armes dans leurs fourreaux, le temps de célébrer la naissance de ce prestigieux lieu de savoir. La présence des Jean Charest, Bernard Landry, Gilles Duceppe, Lucien Bouchard, Lynn Beauchamp et Gérald Tremblay, sous le même toit, parlait d'elle-même, écrivait à l'époque le journaliste Hugo Meunier, dans nos pages. Restez en phase. Partie prenante du projet, avant même qu'il ne sorte de terre, Mélanie Dumas a pu observer, alors qu'elle travaillait dès 2001 à la préparation des collections de la future bibliothèque, comment celle-ci a traversé les années sans que son succès ne se tarisse. « C'est un bel étonnement, dit-elle, de voir encore l'intérêt du public 20 ans après. » Depuis l'ouverture, pas moins de 42,7 millions de personnes en ont franchi les portes. Au fil du temps, l'un des plus grands défis fut d'épouser les habitudes des usagers et d'embrasser le raz-de-marée numérique venu changer la donne. En 2012, le lancement de la collection sur prêtnumérique.ca a, sans contredit, marqué un tournant en marge d'autres chantiers comme le développement d'un réseau interbibliothèque ou la proposition de nouvelles activités et lieux de découverte sur place. La bibliothèque n'est plus juste un lieu où on vient emprunter un livre, c'est un lieu de vie. On voit un changement dans l'utilisation des espaces et pas seulement dans celle de la collection, indique Madame Dumas. On s'adapte, par exemple, avec de nouvelles collections ludiques, jeux vidéo et jeux de société, et des lieux d'expérimentation comme la hutte ou le labo. Ces deux projets, s'adressant respectivement aux enfants et aux adultes, sont axés sur la création et l'apprentissage, avec un accent sur les nouvelles technologies. Au labo, évolution du square actuel qui devrait voir le jour en 2026, on trouvera, entre autres, des imprimantes 3D, de l'équipement de production sonore et vidéo et des projets de réalité virtuelle. Défis d'hier et d'aujourd'hui. Parmi les épreuves auxquelles la Grande Bibliothèque a dû faire face, celle de la pandémie a été, comme ailleurs, particulièrement corsée et son impact se fait encore sentir aujourd'hui, constate la direction des collections. Elle a notamment agi comme accélérateur du développement de l'offre numérique, mais aussi comme modificateur des habitudes de fréquentation et de recours aux services bibliothécaires. C'est probablement la période la plus marquante de l'histoire de la Grande Bibliothèque, estime Madame Dumas. L'évolution du Quartier Latin, dans lequel elle est implantée, a imposé également des défis grandissants à l'institution, dont la présence croissante de personnes en situation d'itinérance ou vulnérables aux abords du bâtiment. Depuis l'ouverture de la Grande Bibliothèque, BANQ a une posture d'inclusion sociale et pose des gestes concrets en ce sens, souligne la relationniste Claire-Hélène Langelé. Depuis bientôt un an, des intervenantes psychosociales issues de la Société de développement social contribuent à offrir un accompagnement et une prise en charge efficace des personnes qui en auraient besoin, complète-t-elle, citant un pôle de réflexion interne et un plan d'action. Et si on se donne rendez-vous dans 10 ans? Mélanie Dumas entrevoit un lieu toujours dynamique et en constante évolution, en phase avec le marché des produits culturels, avec un numérique probablement plus présent, y compris sur place. La place du livre aujourd'hui est très importante, mais vu l'évolution graduelle des collections vers des formats numériques, on peut s'attendre à ce qu'ils prennent un peu moins de place, ce qui en fera davantage pour une offre de services différente qui évolue. En chiffres, 79 024 431 nombre de documents physiques empruntés entre 2005 et 2025. Côté numérique, on parle de plus de 20 millions d'emprunts. 38 436. Nombre d'emprunts réalisés par l'un des usagers de la Grande Bibliothèque avec une même carte, un record. Les romans les plus empruntés depuis 20 ans. 2005, Signe suspect, Patricia Cornwell. 2006 et 2007, Vous revoir, Marc Lévy. 2008, Acide sulfurique, Amélie Nothomb. 2009, Le mystère des dieux, Bernard Werber. 2010, Le fait du prince, Amélie Nothomb. 2011, Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, Stieg Larsson. 2012 et 2013, Rue, Kim Thuy. 2014, Le chardonneret, Donna Tartt. 2015, Charlotte, David Fuenkinos. 2016, Les Maisons, Fanny Britt. 2017, Conversation avec un enfant curieux, Michel Tremblay. 2018, Le poids de la neige, Christian Gay-Poliquin. 2019, Un lien familial, Nadine Bismuth. 2020, Le bal des folles, Victoria Mas. 2021, M, Kim Thuy. 2022, Thio Tiake, Michel Jean. 2023, Que notre joie demeure, Kev Lambert. 2024, Triste tigre, Neige Sino. Début 2025, Rue du Plessis, Ma petite noirceur, Jean-Philippe Plot. C'était Un lieu de culture et de vie depuis 20 ans, un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 1er mai 2025 dans la presse.
Notre avenir culturel passe par un soutien à la relève artistique. Un texte de Simon Brou et Annie Gérin, paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir. Les auteurs sont respectivement l'ancien directeur général du Conseil des arts du Canada et président de la Fédération internationale des conseils des arts et agences culturelles et doyennes de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia. alors que les enjeux de souveraineté économique, politique et culturelle sont projetés à l'avant-scène par les agissements du président Trump et des oligarques qui l'entourent et l'encensent, il est plus important que jamais de penser et d'agir non seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme. C'est certainement le cas pour le secteur culturel, dont le poids économique est dorénavant reconnu et même valorisé par les gouvernements et les milieux d'affaires, comme le confirmait une récente étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui soulignait l'effet de levier considérable des investissements culturels en matière de création d'emplois. Avec un apport financier de 11 milliards de dollars à l'économie québécoise, l'industrie culturelle constituait 9,2% du PIB de la grande région de Montréal en 2021. Son potentiel de croissance ne se dément pas et il pourrait être amplifié par un mouvement soutenu en faveur de la consommation et de la fréquentation culturelle de proximité au moment où les échanges en faveur des États-Unis sont en baisse. Survie. Mais les arts, les lettres, le patrimoine et les industries culturelles représentent énormément plus que les chiffres et les données quantitatives auxquelles il faut souvent recourir pour en démontrer l'importance. Bien plus qu'un secteur d'activité économique, ils sont une dimension essentielle de l'existence et de la survie de toute communauté humaine. Ils sont aussi un ancrage et une perspective d'émancipation et de pleine réalisation pour toutes les personnes qui font partie de cette communauté ou qui aspirent à s'y joindre. La culture est une condition du vivre ensemble et la promesse d'un meilleur avenir commun. Pas étonnant, donc, qu'on réalise de plus en plus le potentiel des arts et de la culture comme facteur de réussite des projets et initiatives en matière d'urbanisme, de santé physique et mentale, de réinsertion sociale ou de développement écologique durable. Tout en retenant les apprentissages, les œuvres et les savoir-faire des générations précédentes, la culture évolue constamment d'une façon qui n'est pas linéaire. Ce mouvement, nous le devons en grande partie aux artistes qui interrogent sans cesse nos rapports à la nature, à l'univers, à l'imaginaire et aux autres humains qui créent des images, des mouvements, des écrits, des sons et des musiques pour nous permettre de mieux vivre nos vies. C'est pour cela que l'accès au patrimoine culturel et à la création actuelle ne doit pas être le privilège d'une minorité, mais un droit universel. Idéal. L'offre culturelle, si vaste et diversifiée soit-elle, ne suffit pas à développer une culture de la culture. La responsabilité culturelle de l'État doit s'assumer grâce au système d'éducation. La transmission culturelle passe nécessairement par l'école et par l'enseignement supérieur. À titre d'exemple, le programme Kultur Tanken en Norvège, en collaboration avec les écoles et institutions culturelles, permet d'offrir aux jeunes un accès aux expériences artistiques pour qu'ils deviennent ensuite des acteurs et des instigateurs de la culture. Le journaliste Stéphane Baillargeon du Devoir évoquait récemment l'université Jaume I, UJ1, de Castellón, en Espagne, qui joue un rôle majeur de diffuseur culturel en raison d'une politique culturelle imposée par la loi. Ces exemples montrent que les établissements d'enseignement ont un rôle crucial à jouer dans la formation et la transmission de la culture de façon durable. Relève. La vitalité culturelle d'une société repose en grande partie sur les artistes que nous nous devons de former et d'encourager. Pourtant, l'éducation supérieure, qui doit jouer un rôle stratégique en matière de recherche, de formation et de transmission culturelle, est encore sous-financée. En effet, si le réseau universitaire a reçu une augmentation de 2,1% cette année, celle-ci est bien en dessous du taux d'inflation et se traduit donc, comme le fait remarquer l'Union étudiante du Québec, par une décroissance nette. Les établissements d'enseignement supérieur ont aussi la responsabilité de fournir aux artistes émergents les outils et les occasions favorables pour réussir leur transition vers la vie professionnelle. Par exemple, la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia a lancé la plateforme ArtVolt en 2020 pour soutenir ses diplômés par le biais de mentorats, de formations d'occasion, de réseautage et de financement et d'expériences professionnelles rémunérées. En près de 5 ans, plus de 1200 diplômés ont pu bénéficier de cette initiative unique en son genre, qui facilite leur insertion professionnelle et leur permet de contribuer pleinement au milieu culturel québécois. Alliance. Toutefois, les établissements d'enseignement ne peuvent agir seuls. Des partenariats solides avec le politique, le secteur culturel et les acteurs des industries culturelles et du milieu des affaires sont plus que jamais nécessaires. La Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia s'engage donc dans des collaborations avec des organismes culturels influents, tels que le Musée d'art contemporain, l'Office national du film, la SODEC, la Place des arts, Tangente, Zone 3, ainsi que de nombreux musées, centres d'artistes, festivals, revues, associations et institutions en tout genre. Ces initiatives et alliances sont autant de pistes concrètes qui pointent vers un soutien structuré, qui ont un impact direct sur les artistes émergents, mais aussi sur les organismes culturels et la richesse, dans tous les sens du terme, de notre société. Dans un contexte économique et politique fragile, notre culture doit s'affirmer davantage. Cependant, investir dans la culture sans intégrer l'éducation, c'est bâtir sur du sable. Il est impératif d'adopter une vision à long terme, ambitieuse et cohérente, où culture et éducation, deux leviers essentiels du progrès social et économique, agiront en complicité et en synergie. C'était « Notre avenir culturel passe par un soutien à la relève artistique », un texte de Simon Brault et Annie Gérin, paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir.
Mille et un ingrédients. Le riche héritage de la cuisine arabe médiévale. Un texte de Daniel Newman, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO. Situé au centre d'un vaste réseau de civilisations, le monde arabo-musulman médiéval a légué un ensemble de recettes et de techniques de cuisson dont l'influence continue de se faire sentir sur les traditions culinaires du monde. Du 9e au 15e siècle, soit pendant plus de 6 siècles, la tradition culinaire arabe a été la plus riche et la plus diversifiée du monde, comme en témoignent les livres de cuisine de l'époque médiévale, qui contiennent près de 4500 recettes provenant de l'ensemble du monde islamique, de l'Espagne alors sous domination musulmane, à l'Andalus en arabe, à l'Afrique du Nord, à l'Égypte, la Syrie et l'Irak. Cette abondante littérature culinaire est d'autant plus remarquable que l'on ne possède pour les temps antérieurs qu'un recueil romain du IVe siècle et une pincée de recettes mésopotamiennes. Bien qu'on ait des preuves de l'existence d'autres cultures gastronomiques, notamment dans la Grèce antique, aucun recueil de recettes n'a survécu. La mobilité des ingrédients dans le monde arabe médiéval résulte de l'expansion de l'islam et du développement concomitant des routes commerciales reliant la Méditerranée, l'océan Indien et la route de la soie. Servant d'intermédiaire, les marchands arabes ont ramené des épices et des fruits exotiques de l'Asie de l'Est et les ont introduits au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe. Au sein même de l'Empire musulman, la Perse a apporté les grenades, le riz et les roses, l'Afrique du Nord, le safran et l'huile d'olive, Samarcande, les melons, et la Syrie, les pistaches, les poireaux et les coings. La cannelle, La casse, la muscade et les clous de girofle sont arrivés d'Inde. Le bois de santal et le camphre du Vietnam, le musc et la soie de Chine. Du cigbage au ceviche. Après la chute de l'Empire sassanide, la dernière dynastie impériale perse au 7e siècle, les conquérants arabo-musulmans ont adopté certaines pratiques en usage à la cour de Perse, dont une cuisine raffinée, tant au niveau des ingrédients que des plats, notamment les ragoûts aigre-doux. Un des mets les plus en vogue à partir du 8e siècle était le cigbage, terme persan signifiant « ragoût au vinaigre ». Ce plat ne fait plus partie du répertoire culinaire arabe moderne, mais il a survécu dans l'escabèche espagnole et voyagé à partir du 16e siècle en Amérique latine par le biais de l'Empire colonial espagnol pour y réapparaître sous la forme du ceviche. La cuisine abbasside des premiers temps, 9e siècle, a quant à elle transmis un autre plat originaire de Perse, le lakcha, qui pourrait être bien la plus ancienne recette de nouilles, puisqu'une pâte y est mise à cuire dans un bouillon. Entre le 11e et le 14e siècle, les migrations turciques et mongoles ont introduit divers plats à base de pâte et de yaourt dans les cuisines arabes de la région. Parmi les exemples d'absorption et de réinterprétation des influences mondiales, on peut citer le koumaj, un épais pain plat, ou le jajak, un plat à base de yaourt aux herbes, ancêtre du tzatziki, grec actuel, et du kassik turc. Le couscous, une spécialité berbère, s'est répandu de l'Occident musulman au Proche-Orient dès le XIIIe siècle. Sa popularité a clairement continué de croître au fil des siècles, puisqu'il est décrit par un voyageur ottoman au XVIIe siècle comme un plat égyptien courant. Vivier de recettes. Certaines influences sont bien plus anciennes, comme dans le cas du mouri, le condiment fermenté le plus employé dans les recettes arabes médiévales. Préparé à partir de céréales, ou plus rarement de poisson. Il est un descendant du garum, la sauce de poisson fermentée de la cuisine gréco-romaine. Son goût et son utilisation ne sont pas sans rappeler ceux de notre sauce de soya moderne. La littérature souligne la stabilité remarquable à travers le monde arabo-musulman d'un vivier de recettes dont certaines sont toujours appréciées aujourd'hui dans de nombreux pays arabophones, comme le shish barak, plat de ravioli à la viande dans une soupe de yaourt, le mouloukidia, ragoût de corette potagère, les samoussas ou les kataïfs, crêpes fourrées sucrées. Les textes révèlent des influences croisées, les mêmes plats se retrouvant dans de nombreuses traditions, tout en intégrant des adaptations régionales. Les préférences locales et la disponibilité des ingrédients expliquent ainsi pourquoi les sources andalouses sont les seules à inclure des recettes de lapin, animal natif de la péninsule ibérique, et moins de recettes à base de riz qui n'étaient cultivées que dans la région de Valence. Bien entendu, l'émergence des cuisines régionales a également entraîné la création de nouveaux plats, comme la moujabana andalouse, un beignet de fromage frit. Goût pour le sucré salé. Très tôt, les ingrédients, recettes et techniques culinaires arabes se sont diffusés en Europe à partir de trois grandes sources. L'Espagne musulmane, la Sicile, sous domination musulmane du début du 9e siècle au milieu du 11e, et les croisades. Des ingrédients comme le sucre, le riz, les amandes, la cannelle, le safran, le gingembre, les clous de girofle, les citrons et les oranges amères ont été introduits par les Arabes. La prédilection de ces derniers pour les plats sucrés-salés et leur usage généreux des épices ont été copiés par les cuisines européennes au point de devenir une des caractéristiques essentielles de ce que l'on a appelé le goût médiéval, qui sera ensuite exporté au XVIe siècle à l'autre bout du monde, dans l'Inde moghole. Le blanc-manger, ce riz au lait à la viande si prisé dans l'Europe médiévale, n'était rien d'autre en réalité que la mouhalabiya des Arabes. Aujourd'hui, le blanc-mange de la cuisine britannique et la mouhalabiya ne contiennent plus de viande, mais on peut déguster en Turquie le plus proche descendant de l'original médiéval, un pudding nommé tavuk gogsu. Sans surprise, la tradition gastronomique andalouse a marqué durablement de son empreinte la cuisine et la terminologie culinaires espagnoles. Les boulettes de viande, ou albondigas, tirent leur nom de l'arabe albunduka, la noisette, en référence à leur format originel. Avec l'expansion de l'Empire espagnol, de nombreux plats arabes ont également voyagé vers le Nouveau Monde pour connaître ensuite de nouvelles transformations. Au Mexique, les albondigas sont ainsi devenus une soupe de boulettes de viande. La métamorphose du muri. Même le poisson frit des fish and chips, si typiquement british, trouve son origine dans une très semblable recette andalouse du XIIIe siècle, un poisson que l'on enrobait de farine, de chapelure et d'épices avant de le frire. Il était même servi avec une sauce vinaigrée à laquelle on ajoutait de l'huile d'olive et du mouri. Quelques 3 siècles plus tard, cette méthode de friture du poisson a été importée en Angleterre par des immigrants juifs séfarades venus de la péninsule ibérique. Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres, illustrant le rôle essentiel joué par le monde arabe médiéval dans la formation de la gastronomie. Par le biais du commerce, des conquêtes et des échanges culturels, la cuisine arabe a influencé les traditions culinaires méditerranéennes, européennes et sud-asiatiques. Son utilisation emblématique des épices, du sucre et des amandes est encore aujourd'hui une partie intégrante de la cuisine mondiale. C'était « Mille et un ingrédients, le riche héritage de la cuisine arabe médiévale », un texte de Daniel Newman, paru dans le numéro avril-juin 2025 du Courrier de l'UNESCO. Thank you.